Vous écoutez Trudeau Landry.
11h04 minutes. Bon jeudi. Bienvenue dans Trudeau Landry 25226 pour nous joindre. Notre numéro texto, bien sûr. Les cas quotidiens de COVID viennent d'être publiés. Les chiffres du jour, sans grande surprise, parce qu'on sait déjà, on savait déjà que ça allait être une journée très, très pénible au niveau des nouveaux cas. Donc, c'est 1609 nouveaux cas de COVID qui sont répertoriés. C'est la plus grosse journée depuis, depuis longtemps, là, depuis très, très longtemps. On s'est tenu longtemps autour du 800, 1000 cas par jour au cours des derniers mois. Donc, 1609 nouveaux cas. Malheureusement, 9 décès qui s'ajoutent à la liste et il y a 23 hospitalisations qui s'ajoutent donc au Québec reliées à la COVID. Moi, hier, puis, tu sais, quand un patient se présente à l'urgence, évidemment que le patient n'est pas toujours hospitalisé et ne monte pas toujours aux soins intensifs. Mais ce qu'on me disait hier, c'est que c'était pas beau dans les urgences, entre autres dans la région de Québec. Hôpital Laval, Hôpital de l'Enfant Jésus. Beaucoup, beaucoup de monde qui sont présentés hier, malheureusement, à l'urgence. Donc, quand on regarde au niveau provincial, c'est plus 23 personnes à l'hôpital. Ça aussi, c'est une des hausses importantes qu'on a eues, là. Parce que dans les dernières semaines, c'était assez stable. Je vous dis pas que c'est la catastrophe, là, provinciale encore, mais c'est des chiffres plus élevés que ce qu'on avait dans les tendances des dernières semaines, Jonathan.
Mais on me disait aussi, là, c'était la même chose hier, mais c'est encore plus frappant aujourd'hui. Enlève Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. On aura les chiffres exacts, là, la répartition régionale. Mais moi, ce que j'avais ce matin, là, c'était autour de 430 Capitale-Nationale, autour de 180 Chaudière-Appalaches, puis autour de 165 Outaouais. T'enlèves ça, tu leur mets des chiffres plus normaux, là, tu sais, 30, 40, on est sous les 1000.
Ben, c'est ça.
C'est que là, trois régions qui viennent scraper le portrait assez solide. 436,
ouais. Capitale-Nationale.
436.
Et 179, c'est je veux dire, Appalaches.
Ouais, c'est ce qu'on anticipait, malheureusement.
Ouais, 165, qu'on me disait.
Puis, bon, c'est sûr qu'on peut regarder ça avec un œil différent. C'est vrai que ça teste beaucoup, là. Tu sais, les centres de tests sont très, très, très fréquentés depuis quelques jours à Québec. Mais en même temps, le pourcentage de positifs
est rendu à 6%, alors que c'était à 1,4% il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours.
Fait qu'il y a plusieurs chiffres à regarder en lien avec ça. Je vous rappelle qu'à 17h, bien sûr, point de presse important, encore une fois, du premier ministre François Legault, du trio, le fameux trio habituel, là. Donc autour de 17h, avec certainement d'autres mesures qu'on va ajouter. Point de presse qui, évidemment, va être diffusé sur les stations Cogeco. Je vous le rappelle, à compter de 17h. On va parler d'un autre aspect important de l'actualité. Grosse nouvelle hier. C'est rare que ça arrive. Fait juste 7 fois qu'un accusé, qu'un individu reconnu coupable qui s'adresse au ministre de la Justice pour avoir un nouveau procès dans le cadre d'une révision judiciaire. Ça fait juste 7 fois que ça se produit. Et c'est arrivé hier avec l'ex-juge Jacques Delisle, qui avait pourtant été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe Nicole Rainville. Vous vous rappelez de cette histoire-là survenue à Québec le 12 novembre 2009. Madame Rainville, qui avait été retrouvée morte dans leur appartement du quartier Sillery, ici à Québec. Elle était âgée de 71 ans. Elle était à demi paralysée depuis un AVC. Et puis là, au début, on pensait que c'était un suicide. Okay? Elle est décédée d'une balle à la tête. Et la preuve balistique avait été, je vous dirais, au cœur de ce procès-là. Et finalement, ben le juge Delisle qui avait été reconnu coupable. Pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement et comment tout ça va se passer, le deuxième procès, on va les retrouver. La juge à la retraite, Mme Nicole Gibault. Mme Gibault, bonjour.
Bonjour à vous deux.
D'abord, Nicole, peut-être nous expliquer c'est quoi ce processus-là. C'était vraiment le dernier recours là pour l'ex-juge Jacques Delisle. Puis en même temps, c'est très, très rare que ça débouche sur un nouveau procès.
Oui, c'est vraiment une bombe, là. C'est un coup de théâtre, ben, exactement, parce que c'est extrêmement rare, 7 fois seulement. Et évidemment, on parle d'erreur judiciaire. On parle pas de renverser une décision. Exemple, tu sais, les gens vont dire, ben, la Cour suprême a décidé de pas l'entendre. Est-ce qu'on renverse la Cour suprême? C'est pas ça, là. C'est dans le contexte d'une demande de révision basée sur une erreur judiciaire. Mais basée sur une erreur judiciaire, il faut évidemment qu'on amène certaines preuves ou, enfin, certaines choses, là, pour valider tout ceci. Et l'ancien juge de Lille a, évidemment, et son équipe a engagé Maître Lockyer. Maître Lockyer, là, faut comprendre que c'est une personne qui se spécialise, il fait d'autres choses, j'en suis convaincue, mais se spécialise dans ce genre de dossier. Il n'en a pas fait énormément parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce genre de dossier-là, mais il est vraiment spécialisé là-dedans. Donc, on a fait appel à lui. Et il a bâti son dossier, il est allé à la recherche d'expertise, mais vous l'avez bien souligné, d'expertise en balistique, beaucoup plus qu'autre chose, Par contre, on connaît pas le contenu, hein. C'est vraiment confidentiel, ce contenu-là. En ce moment-là, on sait que le ministre de la Justice avait des éléments qui, selon lui, étaient suffisants, qui avaient des motifs suffisants de croire, c'est bien important, que si cette nouvelle preuve, mais là, je vais faire un bémol parce que je suis pas sûr que c'est une nouvelle preuve, mais t'en être avec
ouais,
d'autres, là.
Ouais.
Une nouvelle preuve que lui a reçue, les dizaines d'expertises de neuro, je sais pas, en tout cas, il y a des gens, des spécialistes dans le domaine, là, qui auraient dit que c'était clair pour eux que c'est un suicide. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas. On connaît pas le contenu, mais on voit que c'est dans ce sens-là que ça se dirige. Le juge, pas le juge, mais le ministre de la Justice dit, moi, là, je prends ma décision basée là-dessus. C'est prévu au code criminel. C'est déjà prévu. C'est pas un appel, c'est une demande de révision pour erreur judiciaire. L'erreur aurait été, selon lui, là, de pas avoir présenté que ces preuves-là ont pas été présentées. Donc, personne n'a pu décider ou faire bénéficier du doute raisonnable ou d'acquitter ou de condamner parce que on n'en est pas là, là. Là, en ce moment, il y a ordonnance d'un nouveau procès. Alors, le ministre de la Justice dit, écoutez, moi, je retourne pas sur la cour d'appel. C'est pas vrai, là. C'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais ordonner un nouveau procès pour que la preuve, tout au moins cette nouvelle preuve, entre guillemets, soit testée, soit évaluée, soit la crédibilité, il faut le contre-interrogatoire de ces experts-là. Mais là, on est 9 ans après, là. Il y a toute une gamme d'idées qui me passent par la tête en disant comment on va, est-ce qu'il va avoir une contre-expertise? Parce que si la couronne n'a pas eu tous ces détails-là, c'est quelque chose de rebâtir le dossier à l'encontre de tout ça, là. Puis il avait fait, honnêtement, moi je l'ai suivi le procès comme vous, là. Il avait fait vraiment un travail exceptionnel, là. Je pense que, ben, à prime abord, ça semblait être un travail exceptionnel. Puis si on voulait contester la preuve balistique, c'est là où je suis pas sûr que c'est une nouvelle preuve. Ben, selon le ministre, oui. Mais, tu sais, la preuve, elle existait pas probablement, mais les experts que la défense avait présentés, ils étaient peut-être pas assez solides, là. Est-ce qu'on a assez présenté? Est-ce qu'on est allé chercher la crème de la crème? Parce qu'ils se sont fait démolir solides, là. Je pense qu'il y en avait un ou deux, là. Entre autres, il y en a un qui venait de l'Europe. Ils se sont fait démolir le témoignage, mais est-ce que, là, il y en a 10? Ils en ont trouvé 10 au Canada. Est-ce qu'ils étaient disponibles à l'époque? Pourquoi on n'est pas allé là? Bon, enfin, là, c'est pourquoi? Le ministre de la Justice a ces documents-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ceci? On le sait pas vraiment, mais on pense sérieusement que ça a à faire avec la thèse du suicide, les angles, la balle, etc., la façon de... Puis, l'autre élément qui est d'une importance capitale, ce monsieur-là, Jacques Delisle, Et quand même un juriste aguerri, là, était un juriste aguerri. C'est un juge de la cour d'appel. Il savait son droit de témoigner ou pas de témoigner.
Exact.
Il n'a pas témoigné. Et il a donné une version hors la cour.
À Alain Gravel, à Radio-Canada.
Tu sais, c'est quelque chose. Là. Il témoigne, mais pas dans une cour de justice. Suite à ceci, ça ouvre des portes puis des scénarios.
Mais Nicole, j'ai une question sur ce point-là en particulier. Parce que, bon, moi, dans ma connaissance limitée du droit, je sais que, par exemple, on peut pas être jugé deux fois pour un même crime. Bon, à partir du moment où il y a un jugement qui est fait, qu'on a eu l'occasion de se défendre, qu'on a eu une défense pleine et entière, qu'il y a eu un jugement, etc., une peine prononcée, et qu'on décide qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, nous, l'accusé décide que, ouais, finalement, ma version des faits, c'était pas la même. Est-ce que, dans un processus comme celui-là, on doit prendre ça en compte ou on se dit à quelque part, ben, écoute, tough luck, là, t'as eu l'occasion de te défendre, t'as décidé de pas dire la vérité ou de pas donner l'heure juste. Il y a des limites à ce que le système de justice peut faire dans ce temps-là, là.
Une excellente question. Puis il y a deux thèses, là. Il y en a des gens, plusieurs, même des juristes qui vont dire, ben écoutez, là, tout ce que vous venez de dire, ça et encore plus pour quelqu'un qui connaissait le droit, encore plus, puis pas juste le droit, il y a en matière criminelle qui connaissait la prison, mais il a, si on me permet l'expression, là, gamblé. Et c'est clair qu'il a pensé qu'il n'avait pas à témoigner. Il a jugé de sa propre cause lui-même en disant « Moi, je n'ai pas d'affaire à témoigner. C'est tellement clair que je ne l'ai pas fait ou enfin par la preuve balistique qu'on va m'appliquer le doute raisonnable, point final. » Mais c'est pas ça qui est arrivé. Alors, est-ce que ça, parce que j'ai quand même plaidé dans ma vie comme avocat, mais il faut tout le temps regarder deux thèses aussi, pas juste une, là. Puis je mets pas en doute là, la compétence de Maître La Rochelle ou des... Mais c'est un choix qui a été fait, là. C'est vraiment un choix. Par contre, on avait entendu que jusqu'à la dernière minute, et vous vous en souvenez, moi je m'en souviens comme c'était hier, même si ça fait tant d'années, là, on avait annoncé qu'il témoignerait.
Oui.
Un autre coup de théâtre qui est arrivé, on comprenait pas pourquoi, personne comprenait pourquoi, le matin qu'il devait témoigner, on annonce qu'il témoignera plus. Est-ce que ça a pris, je vais donner le bénéfice du doute à Maître La Rochelle, là. Dans les circonstances, ça se peut qu'il ne savait même pas. Il y a quelque chose qui est arrivé, on a entendu parler, bon, d'un membre de sa famille qui aurait évidemment eu une influence là-dessus, là, de ne pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il s'en allait dire qu'il aurait, entre guillemets, aider madame à s'enlever la vie.
C'est ça qu'il a dit à Alain Gravel. Là. C'est un ça. Peu ça qu'il a dit. Puis ça, mais ça, Nicole, ça, c'est pas ce qu'il avait dit aux policiers. Il y a plusieurs... Il y a des changements de version là-dedans. Puis des
tout
fois, moi, je suis néophyte, Nicole, là-dedans. Là, puis bon, je suis ça un peu, mais jamais comme vous. On a l'impression des fois qu'il adapte un peu sa version des faits selon l'étape des procédures où on est rendu. Là.
C'est les propos qui sont entendus aujourd'hui. Avec une journée, là, à peine 24 heures de recul, moi, j'ai été tellement prise par surprise hier, là, ça n'avait aucun bon sens. Bon, OK, il s'en allait à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on fait? Il va-tu redemander, ils vont-tu aller là? Il va-tu avoir une demande de remise en liberté? Bon, toutes ces questions-là sont arrivées à peu près à 150 000 à l'heure dans ma tête. Mais l'effet aujourd'hui et un petit peu de recul, c'est exactement les questions que vous posez. Extrêmement pertinentes. Là, tu sais, il y a eu tellement de versions. Il y a eu, non, j'ai pas fait ça. On parle de, il aurait menti entre guillemets aux policiers. Enfin, il y aurait plusieurs versions qui concordaient pas avec la preuve.
C'est ça.
Actuelle.
Mais ça, Nicole, pour être clair, là, le procès, le deuxième procès, on sait pas quand il va commencer. Mais là, on part de zéro.
Pas.
Et là, les jurés, c'est pas sûr. Tu sais, j'imagine qu'ils entendront pas ça, là, les changements de version, puis ce qu'il a dit Alain Gravel, parce qu'on repart de zéro. J'imagine qu'ils seront pas au courant non plus du processus de contestation.
Je vous dirais qu'ils sont au courant. Ils vont être au courant. C'est clair que dans n'importe quel procès par jury, quand on me pose cette question-là, il y a personne qui est pas au courant de l'actualité où c'est très difficile. Là. Mais ce qu'on demande à un jury, c'est de faire abstraction. De l'écarter et de concentrer seulement sur ce qu'ils vont entendre au procès. Mais plein de questions vont se poser, évidemment. Mais là, les procureurs de la Couronne, là, qui étaient au procès, mais ils sont plus là. Ils ont été nommés juges dans l'intervalle. Il y a toute une équipe qui était bâtie là-dessus. Les enquêteurs, où sont-ils? Je suis certaine qu'ils sont encore disponibles, là, j'ose espérer. Mais c'est une énorme décision pour la Couronne. Vont-ils décider lorsque le fameux paquet là, de preuves qu'on appelle entre guillemets nouvelles, mais qui était peut-être disponible, mais qu'on n'était pas allé chercher, là. Mais quand ce paquet-là va s'ouvrir, là, boîte à surprise, là, est-ce qu'ils vont réaliser, on a une fichue côte à remonter, vont-ils vouloir procéder ou vont-ils se dire, oh, on est tellement mal pris, on peut pas reculer, c'est un ex-juge, on va nous taxer de, oh, ben, c'est sûr, il y a peut-être eu des faveurs, comme j'entends aujourd'hui dire, qui aurait pu se permettre d'aller jusque-là alors que c'est permis à tout le monde? Mais qui avait les munitions financièrement et autres d'aller jusqu'à une demande de révision judiciaire, même si n'importe qui pouvait le faire? C'est très rare qu'on le voit, c'est pas pour rien, là, ça doit être énormément dispendieux. Mais est-ce que la vie et l'innocence de quelqu'un ou la culpabilité de quelqu'un a un prix? Ben certainement, au niveau, sur le terrain, oui, là, c'est sûr qu'il faut débourser. Mais dans le fond, quand on y pense, si cette personne-là, entre guillemets, était innocenté par un tribunal parce qu'il l'est pas encore. C'est pas ce que le ministre de la Justice a dit. Mais est-ce que la couronne va vouloir aller faire un deuxième procès? Ils doivent être déchirés. On peut pas passer à côté. On a tellement donné d'efforts. Puis c'est pas parce qu'il y avait pas les bons points, là. Je pense qu'il y avait de bons points à soulever. Ils ont juste fait leur preuve comme ils l'avaient. Ils l'ont bien décortiqué. Ça a été prouvé selon le tribunal hors de tout doute raisonnable. Puis rien a été ébranlé, là, à ce niveau-là. Ni pour la Cour d'appel, ni pour la Cour suprême. Mais là, la révision judiciaire qui est un peu scellée, là, parce que les documents sont scellés en ce moment, enfin, on n'a pas le contenu exact, ferait en sorte que lui, le ministre de la Justice, a dit « Oh non, il y a quelque chose, il faut soumettre ça, il faut vraiment percer cet abcès-là, ouais, sérieusement. »
Mais tu sais, ce qui est fatigant, Nicole, c'est que je comprends que, bon, c'est dispendieux comme procédure, puis c'est peut-être pas donné à toutes les bourses là de se rendre jusqu'à ce niveau-là, mais la question qui est inévitable, c'est est-ce que il y a un statut particulier pour quelqu'un qui était un ex-juge, un juge à la retraite? Est-ce que le commun des mortels aurait eu la même attention, la même ouverture? Les gens, là, ça fatigue les gens, cette question-là.
Ben moi, j'ai entendu certains experts aujourd'hui, puis je trouve ça intéressant, là, ce qu'ils ont soulevé. Est-ce que on a pas été plus sévère aussi? C'est l'autre. Moi, j'avais même pas pensé à ce côté-là. Est-ce qu'on a été plus sévère justement à cause de ces propos-là? Alors, on sait bien, c'est un juge de la Cour d'appel. Tu sais, il y a en donné, là, mais en mettre sérieusement, plus sévèrement. Je me souviens, moi, que j'entends des procès, puis c'était des, peu importe, un médecin qui était impliqué en matière de médecine ou un policier ou dans une spécialité, mais on en demande plus à ces gens-là, tu sais. Alors, dans ce cas ici, est-ce qu'on a été plus sévère parce que, ou, ça c'est une théorie, ou les autres gens vont dire, on sait bien, il a bénéficié parce qu'il était juge, on sait très bien que monsieur et madame tout le monde auraient peut-être pas eu ces bénéfices-là. Ces deux thèses-là qui vont probablement s'affronter et s'entrecouper pendant des années, on sera jamais capable de convaincre, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui là qui sont nettement convaincus, et je sais, j'en ai rencontré, là, qui sont nettement convaincus qu'il l'a pas fait. Et il y a d'autres gens, là, quand même, que vous leur taperiez qu'un clou sur la tête, il l'a commis, ils sont convaincus qu'il est coupable. Alors, est-ce qu'on va satisfaire par un deuxième procès? Est-ce qu'on va réussir? Parce qu'on veut la recherche de la vérité. Quelle vérité? Une vérité qui a été donnée à moitié après le procès. C'est plein de questionnements. Est-ce que c'est très difficile à trancher? Moi, ouais, j'entends des gens, même des juristes, s'élever là puis dire non, mais tu sais, le monsieur a même pas témoigné, là.
C'est ça, c'est ça.
Il a témoigné à Radio-Canada. C'est pas un témoignage qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Mais là, ce coup-ci, il pourra pas passer à côté. Mais je vous rappelle que c'est un crime, là, d'une assistance au suicide à l'époque puis d'avoir possédé une arme. Quelles étaient les motivations pour pas témoigner? Est-ce que c'est juste sa famille qui l'a vraiment... Ouais. On sait pas, là.
Il nous reste à peu près une minute. Dernière question. Là, demain, il va tenter de reprendre sa liberté en attente de procès. Lui, il est incarcéré depuis plusieurs années. Il a 85 ans. De un, est-ce qu'il a des chances de retrouver sa liberté? Et de deux, est-ce qu'il n'y a pas là une stratégie à 85 ans de dire, regarde, je vais être libéré le temps que toutes les procédures se terminent, je vais avoir le temps de voir mes petits-enfants, etc., avant de voir une issue à ce procès-là. Comment vous voyez, Nicole, la procédure de remise en liberté demain? Là?
Bon, moi, la procédure de remise en liberté, là, encore une fois, ça va être un dilemme potentiel pour la couronne. Vont-ils... Je suis convaincu que là, en ce moment, ils sont en train d'aller, puis c'est vite, là, demain, là, c'est rapide. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont dire, écoutez, avec ce que... Ou ils vont demander une remise, là, mais peut-être pas, là. Mais si ils ont toute la preuve, ils ont eu le temps, en 24 heures, là, de tout analyser ceci, puis se dire, écoutez, quand il y avait le premier procès, là, il était pas en détention. On se souvient, on le voyait se promener
dans
au
corridor.
Justice, là. Ben, dans les corridors partout.
Il faisait face
là
aux caméras, pas à peu près, d'ailleurs. Hein. Il aimait
pas
ça
à peu près. Pas à peu près. Ouais. J'osais pas le dire, là, mais ouais, pas à peu près. Alors, dans ces circonstances-là, peut-être qu'on va dire, regarde, il était en liberté au premier procès. Là, c'est comme si on recommence. Donc, c'est le premier, deuxième, entre guillemets. Donc, l'âge, la COVID étant évidemment partie de tout ça, est-ce qu'on va le maintenir en dedans? Ça fait 9 ans qu'il est en dedans. Est-ce qu'on a peur qu'il se sauve? Bon, il va y avoir plusieurs considérations, mais par contre, est-ce qu'on y va on met la pédale au fond, puis la couronne dit, nous, on maintient notre position, il n'y en est pas question, et on dit non, on conteste la remise en liberté, ou ils vont accepter. C'est un choix qui va être difficile, surtout avec l'ardeur avec laquelle, ou la rigueur avec laquelle ils ont plaidé pendant ces années-là. Écoutez, ça va travailler nuit et jour. La décision est peut-être prise présentement, mais il pourrait toujours y avoir un consentement de la couronne dans des conditions bien spécifiques. Ça va donner le temps à la couronne et à la défense de se pencher sur d'autres options. Est-ce qu'il va y avoir d'autres ouvertures pour d'autres plaidoyers de culpabilité à défaut de recommencer un procès pour meurtre au premier degré? Est-ce qu'il y aurait des considérations? Il a déjà fait 9 ans ferme. Alors, est-ce qu'on va dire, on va y aller pour quelque chose d'autre, puis à ce moment-là, ben, ça va donner le temps de jaser, peut-être. Mais il y a tellement de peut-être, et ça doit vraiment circuler dans la tête de la couronne présentement. Maître Lockyer a l'impression et a souhaite que la couronne n'aille pas pour un deuxième procès, mais est-ce que ça va miner la confiance du public? Est-ce parce qu'on n'entendra pas la version, là? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut qu'un procès se termine? Avec un arrêt, bon, je pense pas qu'on va aller jusque-là. Ouais. Mais comment délicatement, en tout équilibre pour le système de justice également, comment le faire?
C'est ça, ça va être passionnant. Je pense qu'on va se reparler de ça, Mme Gibault, d'après moi. Merci, Nicole.
Merci, au revoir, les gars.
Nicole Gibault, juge à la retraite. Très intéressant. Sincèrement, c'est fascinant, cette affaire-là. Parce qu'il y a toutes sortes d'éléments là-dedans. La preuve balistique, le changement de version. L'histoire de la maîtresse, rappelez-vous, lors du premier procès. Finalement, on avait vu que monsieur le juge avait une maîtresse. Je pense que la maîtresse était au palais de justice. Ah, d'ailleurs, c'était une employée de mémoire.
Et Jérôme, l'histoire d'aspect là-dedans. Je lui ai fourni une fusil, arme prohibée, je suis parti.
Ouais. Ouais.
Tu sais, à la limite, il y a un parjure là-dedans, me semble.
Ça s'est fait à la TV. Ça, c'est un des points importants.
En tout cas, il y a...
Mais c'est ça l'important là-dedans, c'est qu'il a changé de version. Au policier, il a dit, moi, j'étais pas là pantoute. Ouais. Tu sais, quand les policiers l'ont arrêté, il fait une déclaration. Puis il dit, moi, j'étais pas là pas pantoute, là, s'est suicidé. Là, après ça, quelques années plus tard, une fois qu'il est incarcéré et qu'il entreprend d'autres procédures exceptionnelles, il dit, ouais, finalement, j'étais là, là, j'ai fourni le fusil.
Je suis parti. J'ai fermé la porte.
Mais on recommence tout ça à zéro. Donc, est-ce qu'il va témoigner? On verra. Ça avait été très particulier, ce procès-là aussi, dans le sens où, tu sais, comme on disait, fixait beaucoup les caméras des réseaux de télé dans les corridors. Le fils qui s'en mêle à un moment donné. Ça avait été très, très, très spécial.
Ah, oui,
procès.
Des journalistes qui ont été apostrophés.
Oui, qui avaient été apostrophés assez sévèrement par le fils.
José Lagadien?
Je me demande si c'était pas Martin Evrel de TVA à l'époque. Là. Bref, à suivre. Hey, déjà 11h27, vous écoutez Trudeau Landry.
Trudeau Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause.